RFI.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus dans C'est pas du vent. Nous parlons de l'appel des solidarités lancé par 140 associations et ONG françaises pour amener, enfin, j'ai envie de dire, une respiration citoyenne dans cette campagne présidentielle qui manque cruellement de panache. Avec nous pour en parler, quatre invités. Nicolas Hulot, président fondateur de la Fondation Nicolas Hulot, Véronique Andrieux, directrice générale de Action contre la faim, Frédéric Amiel, chargé du plaidoyer chez Emmaüs France, et Émilie Joanne, directrice du plaidoyer international au Secours catholique. Alors justement, Émilie Joanne, avec d'autres associations, CCFD Terres Solidaires, Oxfam et Peuple Solidaire, vous avez épluché les programmes des candidats en matière de solidarité internationale. Votre étude est sortie cette semaine, alors ça donne quoi ?
Alors, ça donne déjà un gros travail, effectivement, à quatre organisations, d'abord de lancer 15 propositions de solidarité internationale qui s'articulent autour de la justice climatique, de la lutte contre les inégalités et du respect des droits humains. Donc, ces 15 propositions, on les a déjà lancées aux candidats. Et ensuite, on a effectivement analysé les programmes à l'aune de ces 15 propositions. Et effectivement, le bilan, il est très mitigé. Il est d'abord que la solidarité internationale est très peu traitée, et quand elle est traitée, elle n'est pas traitée dans un projet global de société. On en parlait un petit peu avant. Pour nous, la solidarité internationale, elle doit être vécue au quotidien par les citoyens et dans les politiques publiques. Donc, elle est trop peu présente à notre goût.
Alors, est-ce que vous pouvez quand même, je ne sais pas comment vous avez fait, mais noter les candidats, donner des bons points, des mauvais points?
Alors, on a décrypté, on n'a pas donné une note globale aux candidats. Ce n'est pas à nous de dire, de donner un bon point ou un mauvais point, mais vraiment de décrypter ligne à ligne les programmes et de se dire que, effectivement, il y a des programmes comme celui de Benoît Hamon ou de Jean-Luc Mélenchon, où, par exemple, le sujet de la solidarité internationale est plus traité autour d'enjeux comme la lutte contre l'évasion fiscale, la régulation de la finance, la sortie des énergies fossiles, avec encore des progrès à faire sur, par exemple, le soutien au financement de l'adaptation au changement climatique pour Benoît Hamon, par exemple. On a des candidats qui traitent très peu du sujet. Monsieur Fillon traite très peu du sujet de la solidarité internationale. Et il manque encore d'engagement sur des sujets clés comme, par exemple, la lutte contre l'évasion fiscale. Et avec aussi des clivages, notamment autour de la politique migratoire, par exemple, et d'une politique migratoire solidaire qui n'est clairement pas soutenue dans le programme de Monsieur Fillon, dans le programme de Madame Le Pen. Et aussi beaucoup de débats, par exemple, autour de la fameuse APD, l'aide publique au développement, qui est de plus en plus portée par certains candidats. Par exemple par M. Macron, comme un outil aussi de discussion autour des politiques, donc ce qu'on appelle l'aide liée, autour des politiques migratoires. Donc un bilan vraiment en demi-teinte avec des mesures très diversement portées, beaucoup de mesures absentes, et ça c'est aussi un vrai signal d'inquiétude pour nous, donc qui ne sont pas intégrées dans les programmes.
Alors Nicolas Hulot, vous qui murmurez, j'ai envie de dire, à l'oreille des présidents depuis plus de 20 ans, comment est-ce que vous réagissez au fait que tous ces sujets-là soient si absents des programmes des candidats ?
L'écologie, elle est nettement plus présente et n'est pas portée que par un seul candidat. Jusqu'à présent, d'élection en élection, c'était le candidat du parti écologiste qui était chargé de cette mission, ce qui était totalement aberrant, puisque c'est un sujet qui conditionne tous les autres. Et j'ai suffisamment dénoncé le fait que tout ce à quoi les autres candidats peuvent être sincèrement ou pas attachés est conditionné par la prise en compte de cet enjeu-là. Donc là, j'ai noté trois candidats qui ont une approche plus exigeante que d'habitude sur l'écologie. Et j'ai noté, et sans parti pris, que pour ce qui concerne le candidat républicain, on est passé, quand il y a eu Sarkozy avec le Grenelle, enfin le pacte écologique, il y a eu un petit moment d'ambition qui a donné lieu au Grenelle de l'environnement. Et maintenant, une forme plus que d'indifférence sur ce sujet-là, une forme d'aversion.
Mais ce qui est fou, c'est que ce Grenelle de l'environnement, il a donc eu lieu sous François Fillon. Vous l'avez rencontré, François Fillon.
Oui, mais à l'époque, en fait, c'était quoi, de l'esbrouf ? Très sincèrement, je me souviens très très bien, c'était Sarkozy qui portait, avec Jean-Louis Borloo, le processus de Grenelle de l'environnement. Et Matignon n'était pas du tout impliqué. C'est pas un sujet qui l'enthousiasme, mais c'est pas un sujet qui le... Voilà. Mais ce qui est assez étonnant, d'ailleurs, parce que on peut tout reprocher aux uns et aux autres, mais ce sont des gens intelligents. Mais quand vous leur dites aux uns et aux autres, comment vous allez produire de la richesse quand le substrat de l'économie que sont par exemple les matières premières et les ressources naturelles vont venir à épuisement, puisque si on continue avec la même productivité aujourd'hui, en cours de siècle, la plupart des matières premières ou des ressources naturelles sera en pénurie. Comment vous allez faire si les changements climatiques qui impactent profondément nos économies au-delà des victimes humaines vont venir achever de plomber nos économies occidentales? Il y a une forme de déni. Donc je pense que simplement dans ce camp-là, il y a deux choses. Il y a le fait de penser que l'écologie, c'est un marqueur politique à gauche, donc toute expression dans ce domaine-là, c'est une espèce de compromis inacceptable. Et puis cette conviction profonde culturelle que l'avenir et le progrès, c'est un couple indissociable. C'est-à-dire que le progrès et l'avenir trouveront toujours des solutions aux problèmes que l'on peut provoquer. Et c'est une forme, je dirais, de péché de vanité, alors qu'on devrait passer dans une expression un peu plus d'humilité.
Oui, et puis la réalité est là pour nous rappeler ce que vous venez de dire. Il est urgent que l'écologie devienne une priorité politique, puisque c'est un cercle vicieux. Par exemple, les conséquences des changements climatiques aggravent la situation des plus pauvres qui, après, viennent frapper à nos frontières. Bonjour Hindou Marou Ibrahim.
Bonjour.
Vous êtes coordinatrice de l'association des femmes Peul du Tchad que vous avez co-créée en 1999. Vous vous battez pour la reconnaissance de la parole des peuples autochtones et la vie s'annonce extrêmement compliquée au Tchad dans les mois qui viennent.
Oui, effectivement, nous entrons dans le mois d'avril et comme chaque mois d'avril, c'est la saison sèche et cette année est très particulière parce qu'on a des régions qui ne sont pas touchées d'habitude par l'insécurité alimentaire mais qui sont affectées à partir de maintenant. Alors, on a la carence d'eau qui commence, on vient de finir la saison de pluie mais on peut traverser les fleuves à pied pour aller de l'autre côté et ce sont ces deux fleuves qui ravitaillent le grand lac dont le lac Tchad que tout le monde veut sauver maintenant. Et il y a aussi les problèmes de l'agriculture qui se posent, parce qu'il n'y a pas assez de céréales cette année. Alors, du coup, nous sommes vraiment sur une trajectoire négative, en fait, sur l'insécurité alimentaire, l'accès à l'eau, l'accès aux ressources naturelles dont les populations font face et feront, malheureusement, pour toute l'année.
Alors, pour que l'on comprenne bien, au Tchad, en période de sécheresse, on peut atteindre des températures qui deviennent vraiment invivables aujourd'hui pour les populations.
L'année dernière, nous avions eu la récolte de 48 degrés Celsius, ça c'est juste en ville. Et cette année, peut-être, ça va être même plus. Imaginez si on descend vers le nord, là où encore c'est plus sec. Donc, c'est jusqu'à 50 degrés à l'ombre. Donc, c'est des températures qui sont invivables où on peut cuire un œuf rien que sous le soleil. Alors, comment un être pourra supporter tout ça? Et nous, on n'a pas genre les conditions d'avoir des climatisations ou d'autres choses. Tout ce que les gens veulent, c'est juste avoir des arbres là où il y a un peu l'air qui souffle, où ils peuvent rester. Mais ça n'existe pas dans cet endroit.
Alors, j'imagine que quand vous voyez, par exemple, que la France n'honore pas ses engagements d'aide au développement, ça vous met en colère?
Ça m'énerve trop parce que les peuples tchadiens n'ont pas initier les développements sur lesquels les changements climatiques sont créés. Donc, nous n'avons pas émis les gaz à effet de serre. Mais la solidarité internationale, elle est où?
Merci Hindou Marou Ibrahim. Je rappelle, Véronique Andrieux, que vous êtes directrice de Action contre la faim. La situation est très inquiétante au Tchad pour les mois à venir.
Oui, absolument. Déjà, pour rejoindre ce qui vient d'être dit au niveau de l'APD, le rapport de l'OCDE est sorti cette semaine, donc qui reflète...
Donc l'APD, c'est l'aide aux pays en développement.
L'aide aux pays, voilà, exactement. Donc l'aide pour la France est à 0,38% du RNB, donc du revenu national brut.
Donc la moitié de l'objectif qui
devrait être 0,7%. La moitié des engagements de la France sur le 0,7%. Donc Action contre la faim, avec beaucoup d'autres, demande un... que la France tienne ses engagements et d'ici la fin du mandat, d'ici 2022, que la quantité de l'aide parvienne à ce 0,7%. L'OCDE, par exemple, les autres annoncent que les autres grands pays européens tels que l'Allemagne, la Grande-Bretagne et d'autres sont déjà à 0,7% et parfois plus. Donc on espère que la France pourra honorer cela, que ce soit effectivement pour de la réponse humanitaire et pour les grands enjeux au niveau développement long terme, tout ce qui est prévention, réhabilitation et résilience. Par rapport à la famine et à la situation de famine ou pré-famine ou quasi-famine qui sévit en ce moment, effectivement, le bassin du lac Tchad est une des régions les plus touchées, avec le nord-est du Nigeria, ainsi que d'autres pays, évidemment, le Yémen, la Somalie et la Corne de l'Afrique et le Sud-Soudan. Donc c'est vraiment une situation alarmante, inédite en termes d'échelle. On parle, les chiffres des Nations Unies parlent de plus de 20 millions de personnes en situation de famine ou quasi-famine. Et donc l'appel que nous faisons avec d'autres est de, vraiment il faut une réponse d'urgence à échelle pour sauver des vies et pour faire face à cette crise sans précédent en termes de, d'insécurité alimentaire. Bon, il s'agit d'une crise particulièrement complexe en termes de causes. Il ne s'agit pas juste d'une vision réductrice à une sécheresse.
Oui, ce ne sont pas que les changements climatiques. Hein. Il y a une accumulation, changement climatique, conflits armés, pauvreté endémique. Tout cela crée évidemment
c'est exactement ça.
Cercle vicieux là aussi,
Absolument.
Qui fait que les populations sont vraiment à terre.
Voilà, quand nous travaillons sur place, les puits sont asséchés. Dans certaines régions, il n'y a plus de pluie depuis 4 saisons des pluies consécutives. Dans d'autres, nous avons des communautés qui ont perdu leur bétail, ou le bétail qui est encore sur pied, on ne peut plus rien en faire, on ne peut plus l'abattre pour avoir de la viande, il ne produit plus de lait, on ne peut plus le vendre. Par exemple, le prix d'une chèvre qui est à $50 dans le marché local est passé à moins de $20 dans certaines régions. Ce qui, quand on parle de $50, on parle de 50 kilos de riz pour ces familles. Donc c'est vraiment une situation où le bétail devient presque une charge. Alors qu'est-ce que font ces familles? Ce sont des déplacés forcés climatiques, des déplacés forcés bien sûr aussi, aggravés par la situation de conflit. Si on prend le bassin du lac Tchad, l'exemple qui vient d'être cité, c'est terrible. Hein. Les personnes n'ont plus la possibilité, puisque ces territoires sont contrôlés par les milices, hein, par les groupes non étatiques armés, par l'armée. Ils n'ont plus accès, par exemple, au lac pour aller pêcher. Ça, c'est les moyens de vie, c'est les sources de revenus, d'emploi de 4 personnes sur 5 dans la région. Alors, comment faire? Quelle réponse apporter? Il faut construire de la résilience, il faut agir en amont et en aval, non seulement sur les conséquences immédiates de la famine, mais aussi sur les causes. On a un problème énorme en termes de financement. Si on prend par exemple le cas du Yémen, moins de 10% de l'appel des Nations Unies pour la réponse humanitaire, et nous sommes en avril, moins de 10% de cet appel humanitaire est couvert. Donc il y a un vrai besoin de moyens et il y a aussi un besoin d'accès humanitaire. Nous ne pouvons pas, dans certaines régions, nous ne pouvons pas accéder aux populations. Les populations surtout ne peuvent pas accéder à l'assistance humanitaire. Donc il y a un vrai enjeu, nous nous battons pour demander la protection des civils, le respect du droit international humanitaire et l'accès humanitaire des populations affectées.
Alors je me souviens qu'en septembre 2015, hein, c'était quelques mois avant la conférence de Paris, il y avait plus de 60 ONG de solidarité internationale, dont Action contre la faim d'ailleurs, vous aviez remis à Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, une lettre ouverte pour que les décideurs politiques fassent enfin le lien justement entre les crises humanitaires qui s'enchaînent et les conséquences des changements climatiques. C'était donc en septembre 2015. Là, vous dites, on lance un appel à nouveau, donc on est en avril 2017. Vous avez parlé de l'aide au développement, dont c'est une vraie honte, hein, cette aide au développement français. Les choses n'avancent pas, on bégaye.
Nous continuons à pousser, nous conservons espoir.
Oui, vous jouez votre rôle.
Cette campagne, oui, notre rôle comme ONG internationale est de vraiment pousser des messages politiques. Il y a une question de quantité de l'aide, mais il y a aussi une question de qualité de l'aide. L'aide ne doit pas être instrumentalisée pour des questions de sécurité, d'immigration ou de commerce. L'aide doit être au service des besoins humanitaires. L'aide doit être donnée à des pays moins avancés. On a vu, le rapport de l'OCDE annonce que l'Afrique subsaharienne recule. Alors, l'Afrique subsaharienne comprend certains de ces pays moins avancés. Et puis, il y a vraiment un besoin d'une prédictibilité, d'une aide qui puisse être allouée avec davantage de flexibilité et d'approche long terme. Donc, toutes ces demandes en termes de qualité de l'aide sont des demandes que nous portons avec d'autres. Après, en matière de famine, depuis 2016, nous travaillons au niveau de l'influence auprès des États membres, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour alerter sur les conséquences, les effets dévastateurs d'El Niño, et puis maintenant sur la situation de famine et de quasi-famine.
Face à ce constat, quelles propositions aimeriez-vous voir dans les programmes des candidats à l'élection présidentielle? Je vous laisse juste le temps d'une petite pause musicale pour y réfléchir.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à cestpasduvent@rfi.fr.
J'ancrais l'espérance aux racines de ma vie. Planter des flambeaux à la lisière des nuits.
نفس الشمس بتشرق علي وعليك نفس النجمة بعيوني بتضوي بعيني
Solidariedade, constrói amizade até sem querer. Faz com que a bondade se instale sem saber. Com boa vontade vamos estender as mãos, promovendo a união pra poder melhor viver.
La grande vue nous a plongé dans sa cohue. Dehors, y'a pas d'étrangers, y'a que des inconnus. Solidarité, voilà ce qu'on est venu demander. La beauté n'a pas de frontières, les frontières n'ont pas de beauté.
Nous sommes les nouveaux rois. Nous sommes les nouveaux rois. Nous sommes les nouveaux rois. Vous êtes les nouveaux rois. Vous êtes les nouveaux rois. Vous êtes les nouveaux rois.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous parlons de l'appel des solidarités lancé par près de 140 associations ONG, associations françaises pour redonner du sens à cette campagne présidentielle qui semble passer à côté des enjeux essentiels. Dans cet appel, Nicolas Hulot, il y a 500 propositions, vous l'avez dit, en open source, hein, vraiment tous les candidats peuvent s'en saisir. Ce n'est peut-être pas trop tard, alors allons-y, si vous deviez en donner deux.
Il faut sortir d'une imposture qui fait qu'on promet de l'argent qu'on n'a pas. Et c'est pour ça qu'on va de désillusion en désillusion, où on a de tellement faibles marges de manœuvre qu'en réalité, c'est indicible pour ceux qui en ont besoin. Plutôt que de faire un chantage à la sortie de l'Europe, il faut mieux faire un chantage, on dit on reste dans l'Europe. Mais à condition qu'on mette en place des financements innovants, notamment comme la taxe sur les transactions financières, la taxe carbone, et qu'elle soit bien dévouée à cette cause-là. Mettre fin à l'Europe, à l'optimisation et à l'évasion fiscale, là, croyez-moi, là, ça va décupler les moyens. Et puis, cesser de subventionner notamment les énergies fossiles. Je rappelle qu'à l'échelle du monde, chaque année, en termes de défiscalisation ou d'exonération, on accorde 500 milliards de dollars aux énergies fossiles. Et selon l'OCDE et le Fonds monétaire international, les conséquences en termes sanitaires et environnementaux de l'utilisation des énergies fossiles coûtent à la communauté mondiale 5000 milliards de dollars. Donc vous voyez la schizophrénie dans laquelle nous sommes. Alors pour ce qui concerne la France et l'Europe, parce que la France dans l'Europe, elle a un pouvoir très important au moment où l'Europe vacille, qu'elle exige justement que l'Europe se ressaisisse et fasse de cette exigence, évidemment, sa priorité.
Frédéric Amiel.
Je pense que parmi les mesures qu'on propose, déjà au niveau français, il y a une mesure qui pourrait changer beaucoup de choses. C'est une véritable politique sur l'égalité salariale, notamment, et dans l'accès à l'emploi entre les femmes et les hommes. En revalorisant les métiers les plus féminisés, en construisant et en ouvrant des crèches pour permettre aux femmes d'accéder à l'emploi, en assurant l'égalité salariale, non seulement on se bat contre une injustice criante qui perdure aujourd'hui en France, mais en plus, on lutte contre le chômage, on élargit l'assiette des cotisations, on améliore la situation des caisses d'assurance chômage, des caisses de sécurité sociale, des caisses de retraite. C'est une mesure qui est indispensable en soi et qui, en plus, est porteuse d'amélioration dans plusieurs champs différents de la société. Une deuxième proposition, et c'est par rapport à ce qu'on disait sur les conséquences de nos actions à l'étranger, aujourd'hui, nos capitaux passent les frontières, nos erreurs de développement économique et écologique traversent les frontières et ont des conséquences partout dans le monde, et dès que quelqu'un vient frapper à la porte, on ferme la porte, on ferme les frontières, on se barricade. La France doit être leader dans la convocation d'une convention internationale sur les migrations. Il faut revoir au niveau mondial les politiques migratoires pour que la liberté de circulation, qui est dans la dans la Déclaration universelle des droits de l'homme soit garantie pour tous et pour toutes, quel que soit son pays d'origine.
Et pour lutter contre le chômage, faire de la transition écologique une réalité peut-être ?
Ah bah ça, évidemment, on essaye. Chez Emmaüs, on aimerait que les politiques s'inspirent plus de ce qu'a pu faire Emmaüs depuis 60 ans, mais aussi d'autres associations. On a voulu trouver une solution pour sortir les gens de la pauvreté, et on a trouvé une solution pour le recyclage du mobilier et du textile. Après, on a voulu élargir notre action, et on est devenu pionnier dans le recyclage des déchets électroniques dont personne ou presque ne s'occupe aujourd'hui. C'est grâce à l'innovation, et si on a pour cap la solidarité, qu'on va trouver des solutions pour résoudre des problèmes au-delà même de ce qu'on avait espéré au départ.
Émilie Joanne.
C'est dur de n'en choisir qu'une ou deux, mais effectivement, s'il en faut une, il faut absolument changer la politique migratoire en France aujourd'hui. Il faut une politique qui repense l'accueil, un accueil digne des personnes. Il faut qu'il y ait une politique qui assure les droits des personnes, quel que soit leur statut. Il faut vraiment une politique qui aussi offre plus de voies légales de migration. Il faut arrêter de penser qu'en fermant les portes, les gens vont arrêter de venir. Les traversées n'en sont que plus dangereuses. Donc il y a un vrai appel à la solidarité en France et au niveau européen. Il faut une Europe forte avec une vraie réflexion sur la solidarité à l'égard des migrants.
Oui, mais alors je parle sous le contrôle d'Emmaüs. Hein. En même temps, on se dit qu'il y a déjà assez de pauvres en France. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde.
On peut surtout aller au-delà de ce préjugé. Nous, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. Et aller au-delà de justement des solutions qui vont mettre les personnes en concurrence. On voit aujourd'hui que si on est plutôt dans la rencontre et dans l'échange entre des personnes en précarité, il y a du chômage, il y a de la précarité en France, il y a des migrants qui arrivent. En mettant les gens en échange, en dialoguant, on arrive à trouver des solutions. Il y a des initiatives comme le territoire zéro chômeur, par exemple, qui sont aussi nées d'initiatives très locales. On veut arrêter de véhiculer des préjugés de compétition entre des migrants, entre des Français. Et on veut vraiment une solidarité globale.
Et puis on ne peut pas trier les gens qui ont besoin d'aide. Rien ne justifie aujourd'hui qu'on choisisse tel pauvre plutôt que tel autre, ni son pays d'origine, ni sa religion, ni sa condition, ni même la responsabilité éventuelle qu'il a dans sa situation. Ça, c'est ce qu'a toujours dit l'abbé Pierre, c'est la base du combat d'Emmaüs depuis 60 ans, c'est l'accueil inconditionnel. Si tu as un problème, viens, on ouvre la porte, on s'occupe de toi et on t'aide à te reconstruire. Et on ne demande pas d'où tu viens, on ne demande pas ce qui t'a amené ici, on ne demande pas si tu as des papiers ou quoi que ce soit, on accueille les personnes qui en ont besoin et c'est ça qui doit guider l'action aujourd'hui.
Oui, mais ça, je suis bien d'accord avec vous, mais vous comprenez que quand on a peur pour soi-même, on a du mal à s'ouvrir aux autres. Et ça donne les sondages que l'on a aujourd'hui avant l'élection présidentielle.
Oui, mais on peut comprendre cette peur. Cette peur, qu'est-ce qu'elle réclame ? Elle réclame des propositions. Elle réclame un cap. Elle réclame de la confiance. Et l'erreur, elle vient pas de la peur des gens, elle vient des propositions qu'on leur met en face. Si les gens ont peur, on peut leur faire des propositions qui sont guidées par la solidarité, qui sont pas basées sur le repli sur soi et qui vont leur redonner confiance. Et on n'est pas obligé de leur dire ne vous inquiétez pas, on va écraser un tel pour que toi tu puisses garder ton emploi.
Véronique Andrieux, vos propositions ?
Alors la France est un acteur global. La France c'est un pays qui est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a donc un rôle à jouer dans les causes des conflits et les causes des situations que nous vivons actuellement au niveau global. Donc nous demandons à la France d'être à la hauteur et de jouer le rôle qui est le sien dans le sens de défendre l'accès humanitaire, de travailler pour le respect du droit international humanitaire. Et de travailler pour la protection des civils. Pour nous, ça c'est vraiment important de travailler aussi dans la résolution négociée politique des conflits. Ça, c'est vraiment une première demande. Une deuxième demande, c'est par rapport à l'APD, à l'aide publique au développement, tant au niveau de court terme, sauver des vies, la réponse humanitaire, mais aussi au niveau du long terme, de tout ce qui est prévention, réhabilitation et résilience. Il y a un vrai besoin d'augmenter la quantité et la qualité des fonds qui sont dédiés par la France.
Voilà quelques propositions parmi les 500 qui sont dans cet appel. Force est de constater que près de 3 semaines après le lancement de cet appel, l'engouement n'est pas complètement au rendez-vous. On fait tout, hein, par exemple, dans cette émission pour que
ceux qui nous écoutent peuvent souscrire à l'appel.
Parce qu'il y a 160 000 personnes qui l'ont fait déjà.
Oui, mais c'est une démarche au long cours, vous verrez. Et puis ça se fait relativement progressivement, mais à mon avis, les gens qui nous rejoignent, c'est pas simplement une adhésion d'un clic. C'est une adhésion, je dirais, presque pérenne. Et donc, vous allez sur appeldessolidarités.fr puisque la plupart de vos auditeurs sont aussi à l'étranger, et vous tapez présent, simplement pour soutenir cette vision et cette exigence, et pour que, encore une fois, on puisse se compter sur cet impératif de solidarité.
Oui, parce que je rappelle que votre pacte écologique avait rassemblé 760 000 signatures en 2007.
Oui, mais il s'inscrivait vraiment dans une échéance très brève, qui était celle de la présidentielle. Avec ce levier qu'on ne va pas reproduire, parce qu'il ne faut pas répéter les mêmes scénarios que j'avais menacé à l'époque de me présenter si les candidats ne nous écoutaient pas, on n'a pas du tout choisi ce processus-là, on ne veut pas être dans ce type de rapport de force ou de chantage, on est plutôt dans une dynamique ou une stratégie, je dirais, d'intelligence collective. Voilà. Donc on ne veut pas obtenir les choses par la force, on veut les obtenir par la raison.
Et ce n'est pas, l'objectif, ce n'est pas de s'arrêter uniquement à cette campagne,
c'est non, que ces 500 points de
position soient portés plus
bien
longtemps.
Plus longtemps que la campagne, et c'est pour ça qu'il faut continuer évidemment à nous rejoindre, il faut que les associations qui se reconnaissent dans cette démarche nous rejoignent. Et puis on va apprendre en marchant, on sait de quel désespoir et espérance nous sommes partis, nous nous sommes retrouvés, on sait ce que nous avons envie d'obtenir et quelle vision nous, nous partageons. Comment on va intervenir durablement dans le champ politique au sens noble du terme, on va se coordonner après les élections.
Merci, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde, et à vous pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve samedi prochain, même planète, même heure.